À Bukavu, sur 95,3. À Uvira, donc, où nous retrouvons Christian Goma. Christian, bonjour.
Bonjour Nathalie et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Et comment la situation humanitaire est-elle perçue par la société civile dans le haut plateau d'Uvira?
En fait, depuis la reprise des attaques et embuscades à Mouranvia et dans certaines localités du haut plateau, les populations qui commençaient à faire un mouvement retour dans leur village ont été obligées de se déplacer de nouveau. Selon les tableaux humanitaires dressés par l'association Action pour le développement des communautés paysannes, ADECOP en Cycle, qui intervient dans cette région, il y a 150 maisons qui ont été les unes brûlées, d'autres détruites, et 738 ménages sont déracinés de leur milieu de production. Il y a M. Pascal Monokamabira, coordonnateur de cette ONG, qui nous indique ici les localités où sont localisés en fait ces déplacés et les difficultés humanitaires qu'ils rencontrent.
Ils sont dans les villages chez Matango, Bijombo, Tangovu, Magunda, Shenge, Yamafuno et Moussoulé. Pour le peu de début de ces événements, cette population traverse une situation humanitaire très précaire, sans aucune assistance. Alors, les besoins urgents sont de trois ordres principaux. Ils ont besoin de vivre et non vivre, c'est-à-dire ceux qui ont vu leur maison détruite et brûlée ont besoin de plastic sheeting, ils ont besoin de couvertures et vêtements, ils ont besoin des ustensiles de cuisine, ils ont besoin de médicaments essentiels de base. Et comme nous nous préparons à la rentrée scolaire, les enfants victimes de ces situations pourront avoir besoin de fournitures scolaires pour l'ouverture scolaire. En deuxième position, ils auront besoin de semences aussi pour la saison agricole prochaine, parce que vers la forêt, c'est maintenant que les gens doivent se préparer à la saison agricole. Il y a aussi besoin de l'aménagement des sources d'eau potable dans les villages et des concentrations, de peur que les maladies d'origine hydrique ne puissent envahir la population. Donc, l'appel est lancé à la communauté humanitaire pour pouvoir voler aux secours des victimes de ces affrontements-là.
Oui, absolument. Mais qu'est-ce que l'association, l'Action pour le développement des communautés paysannes a fait à son niveau pour venir en aide à ces déplacés qui sont...
Oui, Nathalie, Pascal Monokamabira explique la contribution des ADECOP qui a été tellement minime qu'elle nécessite une intervention humanitaire. On l'écoute une fois.
Notre assistance n'a pas été très significative. Nous avons seulement sensibilisé les membres de nos groupements de base dans les villages et quartiers de pouvoir poser des actes de solidarité en faveur des victimes. Mais en termes d'assistance en vivre ou à non vivre, à part peut-être les habits qui ont été collectés par quelques membres de nos groupes en acte de solidarité, il n'y a pas d'assistance significative. Donc c'est nécessaire que la communauté humanitaire puisse songer à cette population-là.
Vous avez été aussi dans les hauts plateaux de Minimbwe, dans le territoire de Fizi. Est-ce que ce sont les mêmes doléances qui vous ont été présentées?
Oui, à Minimbwe, c'est de l'insécurité alimentaire causée par les dernières inondations du mois de mai dernier. Il y a le chef de poste d'encadrement administratif qui a signalé même le déplacement de certains habitants vers Ouvira. La population qui vit en majorité de l'agriculture et de l'élevage n'a pas réalisé de bons rendements pendant la première saison culturelle. Aujourd'hui, Nathalie, il est difficile de trouver facilement du lait frais à moindre coût à Minimbwe, comme c'était dans les années antérieures, parce que, selon Sébastien Sebakana, les vaches vont brouter plus loin du centre de Minimbwe. Et du côté élevage, ici ajoute la recrudescence des épidémies chez les vaches. Il y a le médecin vétérinaire de Ilundu que nous avons contacté et qui a indiqué que une dizaine de vaches meurent chaque mois par la péripneumonie bovine, les tiques et les charbons bactériens. Ce médecin vétérinaire a lancé lui aussi l'appel à la FAO et à d'autres intervenants dans les secteurs de l'élevage d'aller sauver la population animale qui se meurt dans le haut plateau. Nathalie, du côté sanitaire, le médecin chef des zones de santé, Bertin Dogozi, lui s'inquiète de l'insuffisance de certains médicaments dans la zone, dans la pharmacie de sa zone. Il parle ici des conséquences de cette situation. On l'écoute.
Mais on constate aussi que le fait que les malades arrivent et qu'ils ne trouvent pas de médicaments au centre, ils se retournent vers, ils cherchent d'autres voies, notamment chez les féticheurs, les guérisseurs, les maisons de prière, ainsi de suite. Et c'est une situation qui va encore nous demander de redéployer des efforts pour resensibiliser ces gens pour qu'ils puissent rejoindre les formations sanitaires lorsqu'ils tombent malades. Nous lançons un appel pressant au niveau des partenaires ou des bailleurs de fonds avec la route maintenant qu'on vient d'ouvrir. Si les partenaires peuvent venir vraiment nous aider en ce qui concerne l'approvisionnement médicaments, l'eau potable, les infrastructures, les moyens de communication.
Donc là, c'était Bertin Dungozi, comme nous venons de le dire, c'est le message chef de zone de santé. Et du côté de l'extrême, sur l'extrémité du territoire de Fizi, quelle est en fait la situation humanitaire là-bas, Christian Goma?
Lors d'une mission effectuée dans cette partie de Fizi, il y a plusieurs doléances qui ont été présentées aux humanitaires et qui portaient sur le désenclavement par la mise en place en fait des antennes des radios, de réseaux de téléphones pour permettre à la population en fait de dénoncer les abus dont elle est victime. À Missisi, par exemple, une liste de plus de 1000 candidats avait été dressée pour l'abonnement au réseau Vodacom, mais rien n'a été fait jusque-là. Toujours à Missisi, le président du club anti-sida s'est plaigné de l'insuffisance des préservatifs offerts par les humanitaires. Selon Soumaïli Kikombe, le PNUD et l'ONG Norwegian Church Aid avaient formé et sensibilisé les jeunes pour lutter contre le fléau au mois de mai. Plus de 9000 pièces de préservatifs avaient été déposées à ces clubs, mais les stocks s'est épuisé un mois après. Donc, selon lui, il y a risque d'une contamination rapide du VIH sida. Et à ce sujet, à Kilembwe, par exemple, donc là nous sommes à l'extrême sud, ce sont les femmes qui se plaignaient d'être victimes de violences sexuelles de la part des hommes armés étrangers. Elles ont aussi lancé l'appel aux intervenants dans ce secteur de leur venir en aide, Nathalie.
Christian Goma, je vous remercie beaucoup. Notre invité, c'est Samuel Zongrana, chef de bureau Ocha Ouvira. Nous l'aurons donc tout à l'heure. Merci et à la prochaine.
Merci à vous et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Okay. Pour que la paix ne soit pas qu'une bêtise. Monsieur Zungrena, vous êtes chef de bureau Ocha Ouvira, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bonjour Monsieur Zungrena, vous venez là de suivre un peu le tableau que vient de dresser Christian Goma dans son reportage qu'il a réalisé à Ouvira et sur le haut plateau de Nimbé également. Conditions de vie difficiles, violences sexuelles, maladies bovines, la situation est guère réduisante, hein?
Oui, il y a beaucoup de préoccupations. Si nous prenons par exemple les deux foyers où il y a des affrontements tels que la localité de Katobo, dans les villages environnants. Une mission récente sur place avait évalué environ 103 ménages déplacés. Nous sommes allés sur place, nous avons pu faire une évaluation. Et en ce moment, nous nous préparons avec les acteurs qui sont intéressés, tant du point de vue de vivre, de non-vivre et de santé. Et une réunion d'ailleurs est prévue cet après-midi à Bukavu pour essayer de planifier cette réponse. Par rapport au village dans les environs de Mouranvia, ça reste quand même une préoccupation pour les humanitaires. D'abord, pour l'accès qui n'est pas possible par route. La MONUC vient d'effectuer quelques vols de reconnaissance sur place et nous espérons qu'avec eux, nous allons pouvoir, d'ailleurs nous avons fait une demande dans ce sens, nous allons pouvoir arriver dans cette localité. Mais il faut savoir que les villages cités autour de Mouranvia demandent plusieurs jours de marche et la situation sécuritaire en ce moment ne le permet pas. Mais nous allons suivre cette évolution et dès que c'est possible, nous allons pouvoir organiser une mission sur place. L'autre alternative, c'est de voir avec les ONG qui sont déjà opérationnelles sur place, et de voir si nous pouvons nous appuyer sur ces ONG-là pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'une évaluation préliminaire et avoir une situation, une évaluation des besoins sur place.
Et où en est-on avec la réhabilitation de routes dans les différents centres de haut plateau de Fizi, Nyembwe et Mikenge?
Pour des réhabilitations de routes, vous savez que des efforts ont été faits énormément. Aujourd'hui, c'est possible de partir à partir de Nimbwe, je vais dire Fizi. Et il y avait un acteur actuel qui était sur l'axe Fizi-Nimbwe. Ce tronçon a été inauguré en juin dernier. En ce moment, il était au niveau du point zéro jusqu'à Mikenge, mais compte tenu du développement sécuritaire dans la zone en ce moment, ils ont été obligés de réduire leur staff sur place. C'est-à-dire qu'il y a pas mal encore de défis à ce niveau et certainement qu'il y aura beaucoup de besoins pour pouvoir encore ouvrir d'autres zones qui restent inaccessibles en ce moment aussi sud.
Monsieur Zongrenard, OCHA, c'est le bureau qui coordonne un peu toutes les activités des ONG à travers et des agences évidemment à travers le pays et à travers le monde bien sûr, mais à entendre le reportage réalisé par notre confrère Christian Goma, apparemment il n'y a que la DECOP qui s'intéresse vraiment à la situation humanitaire des populations d'Ouvira et de Plateau de Minimbo et consorts. Est-ce à dire que les autres ONG ne se lancent pas, peut-être par manque de moyens ou de financement? Qu'est-ce qui se passe?
Non, et je dois d'abord préciser que nous, officiellement, on a pas reçu un rapport à DECOP sur ce déplacement de population. Nous l'attendons 14 jours pour essayer d'évaluer. Mais je vous parlais tantôt de Katobo, où nous avons eu des ONG locales et internationales qui se sont joints à nous, qui sont sur place. Par exemple, à Katobo, lorsque vous arrivez à Katobo, vous ne pouvez pas avoir accès facilement au village là où il y a des déplacés. Donc, l'ONG locale Arche d'Alliance a des profits, nous ont aidés en contactant des personnes ressources sur place, en faisant venir à Katobo même des représentants de ces déplacés avec qui nous avons eu des entretiens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs humanitaires qui sont regroupés avec nous et qui cherchent des solutions avec nous afin d'apporter des assistances aux populations affectées, d'alléger un peu leurs souffrances. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain.
On a également entendu qu'il n'y a qu'un seul intervenant sur le plan sanitaire dans le Haut Plateau, l'IRC. Qu'est-ce qui explique la réticence des autres ONG?
C'est vrai que là, IRC est seul en ce moment. Nous avions ensemble évalué avec IRC il n'y a pas très longtemps pour voir s'il y a un besoin que d'autres acteurs se joignent à IRC. Ils avaient jugé la situation assez sous contrôle. Et je voudrais quand même revenir sur ce problème de manque de médicaments. Des missions effectuées sur place entre juin et maintenant, on n'avait pas relevé, en tout cas avec le DCZ et IRC, les deux parties n'avaient jamais parlé de problèmes de santé, d'approvisionnement en médicaments. Seul le centre de santé de Kabingu, qui est situé à 7 km de Minembwe, avait posé de problèmes. Mais lorsque des missions tout dernièrement de Ocha se sont rendus à Minembwe, ils ont constaté qu'il y avait d'autres problèmes liés. Des lots importants de médicaments périmés ont été trouvés sur place. Là, il y a un problème peut-être du fonctionnement même des structures sanitaires. On a aussi noté l'irrégularité de la supervision de certains centres de santé. Je crois qu'il y a un problème à relever aussi à ce niveau pour que certains médicaments qui sont mis à la disposition des populations puissent être effectivement destinés aux bénéficiaires et non pas être gardés dans des dépôts où le date de péremption s'expire. Donc, jusque-là, je puis vous dire qu'il y a quelques semaines, IRC, qui est opérationnel dans la zone depuis longtemps, même au moment où l'accès n'était pas possible, IRC faisait des rotations aériennes pour assister ces centres de santé-là. Et aujourd'hui, la route est ouverte, il n'y a pas de problème majeur à ce niveau, et cet acteur arrive à couvrir en ce moment les besoins en médicaments, en tout cas de la zone.
Nous avons également entendu parler des maladies des bovins, des vaches, toujours dans les hauts plateaux de Minembwe. Mais qu'est-ce que la FAO a déjà fait pour résoudre le problème épidémiologique de l'élevage, ainsi que le problème de la sécurité alimentaire après les inondations du mois de mai dernier?
Là, vous posez une question pertinente. Pour les maladies liées aux vaches, je puis vous dire que non seulement à Minembwe, mais aussi dans la plaine de la Ruzizi, il y a des maladies qui ont été déclarées, nous avons reçu des rapports et nous sommes en discussion avec la FAO. La FAO a prévu, je pense, dans 1-2 mois, une vaccination au niveau de la plaine de la Rougivie pour l'épizootie, en attendant que des réponses puissent être trouvées pour la péripneumonie des bovidés. Donc, ce sont des actions qui sont en train d'être prises au niveau de la plaine pour remédier à ce problème de sécurité alimentaire. Mmh. Et nous sommes toujours en discussion avec la FAO pour que, au niveau aussi des plateaux de Minembwe, des actions puissent être entreprises dans ce sens.
Mmh. Parmi les problèmes relevés dans ce sujet, il y a également le cas des violences sexuelles. Plusieurs jeunes filles et femmes ont été violées au plateau, à Loulengue par exemple, et à Kilembwe, en territoire de Fizi. Alors, est-ce qu'on peut connaître le pourcentage ou le taux de ces jeunes filles qui ont été violées?
Malheureusement, il n'y a pas de statistiques en ce moment compilées sur les violences sexuelles. Quelques acteurs sont très actifs et nous nous appelons à ce que nous puissions avoir une coordination efficace pour avoir les statistiques, parce que sans chiffres, il est difficile d'envisager un planning quelconque. C'est que je puis vous dire, le problème des violences sexuelles est récurrent. Non seulement dans cette partie que vous citez, mais aussi dans la plaine de la Rougivie, où vous savez qu'il y a une certaine concentration des militaires, où les femmes ne peuvent pas avoir accès aux champs, faute de se faire violer en cours de route, où il y a des problèmes aussi de vol, de récolte de la population sur place. Si vous prenez par exemple les hauts plateaux ici d'Ouvira, les femmes qui sont sur ces montagnes, une fois qu'elles ont été victimes de violences sexuelles par exemple, doivent parcourir au moins 60 km pour descendre dans la plaine et avoir accès à des soins, à des kits PEP. Donc c'est un problème aussi des forces groupes armés qui sont encore très actifs, parce que lorsque vous regardez les rapports au jour le jour, vous écoutez les associations locales ici qui ont des chaînes d'écoute qui assistent les personnes victimes de violences sexuelles, le plus souvent, en fait cas, d'hommes en tenue militaire. Mmh. Donc vous comprenez que là, c'est une difficulté que nous avons. Maintenant, les associations, les ONG, les organisations des Nations Unies sont aussi très actives, mais il y a un besoin de pouvoir effectivement nous coordonner pour trouver des réponses assez efficaces aussi à ce niveau.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une politique de prise en charge rapprochée de ces victimes de violences sexuelles?
Tout à fait. Je vous parlais tout de suite de l'accès qui reste un problème assez difficile au niveau du Sud-Sud. Dans des zones de santé où l'accès est possible, des médicaments sont entreposés et toutes victimes de violences sexuelles qui arrivent dans ces centres de santé sont automatiquement prises en charge. Au-delà de la prise en charge médicale, vous avez aussi des ONG qui sont très actives dans la prise en charge psychosociale et économique, aussi bien que dans le domaine juridique.
Peut-être ma toute dernière question, avant-dernière peut-être. Vous, en tant que chef de bureau au TIA Ouvira, quelle lecture faites-vous de la situation humanitaire dans cette partie du pays?
Je crois que le paysage humanitaire au sud, ici, a eu une nette amélioration du point de vue des conditions de vie comparativement à la situation d'après-guerre. Tout à l'heure, je vous disais, de nouvelles routes ont été ouvertes. Si vous prenez, par exemple, Kilembwe vers Kabambaré, ça c'est maintenant dans le sud du Maniema. Cette route a été ouverte et vous savez que dans le sud du Maniema, il y a des problèmes de malnutrition où les malades maintenant peuvent avoir accès au centre de santé au sud dans Fizi. Il faut aussi noter qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine de l'accès à l'eau potable, de l'éducation, bien sûr. Dans le sud-sud, par exemple, je peux vous dire que le taux de malnutrition a été réduit de moins de 3% par rapport à 10% des années antérieures. Mais certainement, il y a toujours des défis énormes qui attendent les humanitaires. Mmh. Je veux aussi peut-être profiter de votre micro pour dire que toutes ces actions qui sont en train d'être menées ne peuvent se faire que lorsque il y a aussi des financements. À titre d'exemple, le plan d'action humanitaire 2007, qui a été évalué à mi-parcours, a montré que seulement 37% des besoins humanitaires ont été couverts en 2007. Donc, si vous voyez, il reste encore 63% autres besoins qui sont identifiables sur le terrain. Mmh. Et pour la deuxième allocation du Pool Fund pour 2007, si vous voyez 15 millions, par exemple, pour trois provinces plus le district d'Ituri, mathématiquement, on s'est dit que même si chaque province se partageait avec 4 millions, pour les besoins qui sont identifiés au niveau de la province du Sud-Kivu, vous voyez que c'est pas du tout énorme. En plus, beaucoup d'acteurs humanitaires n'ont plus de financement de la part de leurs bailleurs traditionnels, ce qui fait que le pool fund devient en quelque sorte presque le seul financement auquel tout le monde a recours. Okay. Donc ce sont des défis qui sont encore là et qu'il faut que au niveau de la coordination, on puisse faire encore ce plaidoyer. Mm-hmm. Mais pour que ce plaidoyer soit efficace, nous avons effectivement besoin que nos partenaires collaborent effectivement avec nous de façon étroite pour que nous puissions avoir la situation humanitaire telle qu'elle se présente et l'appuyer sur un plaidoyer assez fort pour que ces crises, qui sont souvent appelées des crises oubliées, puissent quand même faire l'écho au niveau des bailleurs de fonds pour que plus d'argent puisse être donné dans la mise en œuvre de ce programme humanitaire.
Samuel Nzongona, je rappelle que le chef de bureau OCHA à Ouvira, vous êtes notre invité ce matin. Merci, au revoir.
Merci bien, Jérôme. Au revoir.